Vous aimez ce podcast ? Soutenez-le grâce à l'option Acast Supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Les déviations racontent l'histoire de celles et ceux qui ont changé de vie. Pour nous suivre, rendez-vous sur notre site, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, notre page Facebook, notre compte Instagram et notre podcast sur toutes les plateformes d'écoute habituelles. Depuis la rentrée, les déviations s'associent au magazine Grazia pour vous proposer chaque semaine un podcast et un article autour d'une personnalité inspirante. Tout de suite, un nouvel épisode, une nouvelle histoire, une déviation.
Je pense que j'ai créé un environnement que je trouve, pour moi, parce que je ne peux pas parler au nom des autres, mais agréable, sain, stimulant, vivant, joyeux, tous les jours, c'est incroyable.
Elle a 34 ans, deux petites filles et un mari. Habite Paris, elle aime Basquiat, Françoise Sagan, les pièces vintage et revendique volontiers son goût de la liberté. Elle a aussi monté sa petite entreprise, aux trois fois rien des vêtements en ligne qu'elle vend à une communauté qui la suit, pour certains, depuis 10 ans. Sa marque Cézanne, première enseigne de vêtements française à être née sur Internet, totalise aux dernières nouvelles plus de 1,3 million d'abonnés Instagram. Elle, c'est Morgane Cézalori. Une jeune femme hors norme qui a secoué le monde de la mode avec des basiques aux coupes impeccables et une esthétique extrêmement désirable. Car la fabrication des images et la création du désir, c'est peut-être bien ça la pierre d'achoppement de Cézanne. Mais vous l'avez compris, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est elle, la créatrice, la fondatrice, la femme d'engagement, l'autodidacte qui n'en fait, disons le mot, qu'à sa tête et à qui cela réussit plutôt pas mal. Morgane, je suis ravie de te recevoir au micro des Déviations. J'aimerais ici que tu puisses nous raconter ton histoire. Tu as déjà donné beaucoup d'interviews, mais ici, on ne va pas te dévoiler tes adresses fétiches ou tes produits de beauté préférés. Mais je voudrais qu'on parle de toi, de ton histoire, et donc on commence au début. Tu es née en République démocratique du Congo.
Ouais, carrément. En fait, mes parents y ont vécu 10 ans, et je suis née dans cette histoire de 10 ans passée en Afrique. Et j'ai passé donc quasiment un peu plus de 4 ans, donc ma toute petite enfance. Donc je pense que ça conditionne, mais en même temps avec des souvenirs un peu lointains, ça conditionne sur l'ouverture et l'envie d'ailleurs, quoi, en général.
Ensuite, donc, tu es rentrée en France avec tes parents à l'âge de 4 ans.
Exactement. Et puis après, j'ai grandi en banlieue parisienne, à la Garonne-Colombes.
Tu étais quel type d'adolescente ?
Je pense que comme aujourd'hui, je suis hyper sage dans la forme et pas du tout dans le fond. C'est ce qui fait, je pense, la particularité de mon parcours, la particularité de la façon dont l'entreprise se vit au quotidien. Voilà, je remets en question tout ce qui peut être remis en question tout le temps. Et en fait, j'adore ça parce que du coup, c'est toujours en mouvement. Et en même temps, j'ai pas du tout besoin d'aller chahuter et de faire des vagues. Ça m'intéresse pas. Ce que je veux, moi, c'est me trouver. Et par la même occasion, du coup, essayer de créer un environnement qui est stimulant, qui est passionnant, qui est humain. Et je pense que c'est ma seule priorité dans la vie, en fait. Et pareil, maintenant que j'ai des petites filles, j'ai envie de cultiver ça et j'espère que je pourrai leur transmettre. En fait, juste qu'elles aient cette liberté de se découvrir, en fait, et puis de prendre les chemins qu'elles ont besoin de prendre, et pas ceux qu'on leur impose, que ce soit nous ou un système.
J'ai lu, parce que ça fait partie de toute l'histoire qu'on raconte sur toi au fil des interviews, que tu avais passé le bac en candidat libre.
Oui, parce qu'en fait, je suis donc partie aux États-Unis une année, et quand j'avais 15 ans, et quand je suis rentrée, j'étais forcément un tout petit peu, pas déphasée, mais je pense que c'était tellement libre cette année que j'ai passée à l'étranger et de revenir dans un cadre, d'autant plus avec des matières qui, moi, me passionnaient pas forcément, à part toute la partie littéraire. Et donc, du coup, j'ai eu vite le sentiment qu'un bac L pouvait se passer librement. Et j'en ai un peu profité aussi. Ça a été une année ou deux années où, en fait, je me suis intéressée à beaucoup de choses. J'ai eu la chance de prendre le temps aussi de lire, de faire des expos, de questionner, en fait, finalement, ce qu'on nous impose naturellement. Et voilà, et j'ai eu mon bac comme ça, et c'était super.
Est-ce que dans la famille d'où tu viens, on te poussait justement à cultiver ta singularité, à trouver ta place
C'était pas du tout quelque chose de cultivé consciemment, mais c'est sûr que j'ai des parents très libres. Et notamment parce qu'il n'y a justement pas cette contrainte de milieu social. Et en fait, ça change tout. En fait, il n'y a pas de conditionnement quand on ne vient pas d'un milieu bourgeois où on est juste libre de devenir, en fait. Et je crois que ça, c'est une chance. Enfin, moi, c'est la plus grande chance que j'ai eue. Et ma mère et mon père, de laisser leurs enfants se trouver, se chercher, se tromper. Et puis voilà, avec une maman qui n'a absolument jamais mis dans notre tête que c'était important de réussir. Juste qu'il fallait, si possible, être heureux. Enfin, en tout cas, trouver un moyen de trouver de la joie dans ce qu'on est et dans ce qu'on fait. Et voilà.
C'était quel type de milieu social, tes parents ?
Je sais pas, je pense que c'est très... Eux, ils ont grandi dans des familles modestes, sans milieu, je dirais. Donc sans conditionnement, ils ont travaillé et ils ont pu nous offrir une enfance et une adolescence confortable, sans que ce soit trop, pas assez, juste l'espace qu'il faut, ou en tout cas les moyens qu'il faut, qui sont pas seulement financiers, de pas avoir peur, de pas avoir de manque. Ça crée un confort émotionnel aussi. Hyper important, en fait, pour se laisser la liberté d'être et puis d'avoir confiance en soi pour se dire, en fait, j'ai rien à perdre et j'ai rien à prouver. Et ma mère, elle est extraordinaire parce qu'encore aujourd'hui, elle en a rien à faire de ce qu'on fait ou de... Elle veut juste qu'on soit bien, quoi.
C'est marquant, la façon dont tu racontes ça, tu parles d'une espèce de justesse, justement, pour qu'il y ait l'espace. Est-ce que tu es en recherche de cette justesse-là dans ta vie, dans tes créations ?
Est-ce qu'il y a une justesse ? Je ne sais pas s'il y a une justesse et si je cherche ça. Juste d'être bien, en fait. Ça ne veut pas dire que tous les jours, on est trop bien. Et même quand je pense à mon enfance ou mon adolescence, ou... c'est juste que la confiance de pouvoir chercher, trouver et d'avoir cette liberté-là fait qu'on a l'impression que ça va aller, quoi. Aussi parce que je pense que les valeurs qui sont importantes pour moi... Elles sont tellement évidentes et tellement claires. Moi, j'ai besoin d'être bien avec les gens qui m'entourent. À partir du moment où on est bien soi et qu'en plus, on a l'impression d'être super bien entouré et d'être aimé et d'aimer, j'ai l'impression que tout va bien, quoi.
Moi, j'aimerais bien que tu me racontes toute la partie après ton adolescence, parce que j'en suis restée au bac L. Ce que tu fais ensuite.
Je suis partie de chez moi à 18 ans. Vivre avec mon premier amoureux, enfin mon premier amoureux, en tout cas la première personne avec qui je me suis installée. J'avais déjà commencé quelque part, sans le savoir, ma vie professionnelle. Bah, du coup, j'ai pris une année après le bac pour me demander ce que je voulais faire. Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai en parallèle commencé à moi chiner sur Internet. C'était le tout début d'Internet. Et au même moment, ma sœur est partie à Londres. C'est cette histoire qui a effectivement changé peut-être le cours de ma vie, quelque part, c'est drôle. Son départ à Londres, elle a laissé quelques vêtements, dont des pièces vintage. Et moi, comme je cherchais et je chinais ça pour moi, à ce moment-là, je lui ai dit « Ah ben, peut-être que je peux les mettre en ligne. » Et juste en me disant « Ça va me faire de l'argent de poche. » Puisqu'en fait, dans le principe de cette année où je ne faisais pas d'études supérieures à ce moment-là, et puis dans l'absolu, du coup, c'était de justement pas regarder le plafond non plus. Donc, je travaillais un peu. Et puis, ben, ça en parallèle, qui était juste argent de poche. Et en fait, j'ai découvert là que j'avais une prédisposition complètement naturelle, en fait, simplement pour composer avec des images, des matières, des couleurs. Et c'est comme ça, en fait, qu'a commencé mon histoire, quoi, professionnelle.
Ta sœur part à Londres, elle te laisse un sac de fringues, tu te dis « je vais les vendre », tu fais des jolies photos et tu vends tout sur eBay très rapidement.
Oui. Naturellement, juste, je comprends que pour être attirée par une image et la voir, tout simplement, bah, il faut qu'elle soit lumineuse, mais pas comme quelque chose de réfléchi, juste instinctivement, comme quand on essaye de faire une jolie photo et qu'il vaut mieux avoir de la lumière que... Et à l'époque, en fait, c'est comme si tout le monde prenait des photos dans le noir. Comme si j'avais été la seule à m'être dit, bon, bah, peut-être qu'un mur blanc près d'une fenêtre et une belle composition, c'est plus attirant. Du coup, les gens, très rapidement, ont été à fond, en fait, avec ma sélection. Progressivement, après, j'ai commencé à chiner aussi dans ce but-là de proposer des sélections vintage. J'ai un cercle de clientes qui s'est constitué finalement DIB. Donc ça, là, ça fait très longtemps. Et puis qui m'a suivi avec les composantes. Donc ça, c'était la version vintage, mais un peu plus cadrée, je dirais, parce que j'avais mon propre site et donc sortais de la plateforme très, très jolie qu'est eBay. Et c'était beaucoup plus pratique. Et puis après, il y en a qui sont clientes aujourd'hui. Donc ça, c'est fou, puisque ça fait 15 ans, en fait.
Oui, parce que c'était avant Instagram et les jolies photos d'Instagram. On était en quelle année quand tu mets ce sac de vêtements en ligne sur eBay ?
Ça devait être 2003.
Donc 2003, ensuite tu lances donc les composantes et là le succès est assez fou parce qu'en plus il n'y a pas de... Ce modèle-là que tu as créé, qui est artisanal complètement, personne ne le fait en fait.
Ce qui est intéressant, c'est que la contrainte finalement a créé naturellement la marque aussi. En tout cas, d'une certaine façon, puisque au début, donc, je commençais sur eBay et c'était un peu des ventes tous les jours et c'était contraignant parce que ça voulait dire aller à la poste tous les jours sans la partie facile qui existe aujourd'hui où on peut imprimer des étiquettes en ligne et compagnie. Là, il fallait faire la queue tous les matins. Donc au bout d'un moment, c'est ça qui a fait que j'ai voulu créer mon site et donc mon univers et il fallait simplement une adresse de site, donc les composantes. Et donc après, pour m'éviter d'aller à la poste tous les jours, je me suis dit, bon, c'est peut-être pas mal d'avoir un rendez-vous par mois qui me contraint aussi et me donne un peu une deadline parce que j'étais hyper jeune. Donc, et comme je suis un peu électron libre et que j'aime pas trop à la base les horaires et les dates, c'était un peu mon petit cadre. Je me suis auto-cadrée avec une date par mois sans me dire au début, en 24 heures, ça va plaire. Et la réalité, c'est qu'effectivement, le premier rendez-vous où donc moi j'ai invité les personnes qui m'avaient suivi jusque-là, et ben c'est parti très vite. Et donc c'était super parce que ça me permettait aussi d'organiser mon temps potentiellement, soit de voyager, de chiner en voyageant, et puis après de partager ma sélection à un moment identifié. Ça a été super. Et puis après, au bout d'un moment, ben, les pièces uniques. C'est incroyable parce que c'est magique et moi je veux dire je suis très sensible à tout ce qui est ancien et donc qu'on trouve pas facilement. Mais c'est vrai que quand on a de plus en plus de personnes qui sont intéressées, ben ça crée aussi de la frustration. Donc progressivement, c'est là que je me suis dit bon, toute cette magie que j'ai la chance d'aborder au quotidien, parce qu'en fait les belles pièces vintage c'est souvent fait main. Avec des couleurs dingues, des nuances, des tissus, des coupes, des finitions, des montages qu'on trouve difficilement, en tout cas dans des prix accessibles aujourd'hui. Et donc j'avais l'impression d'avoir, pendant ces 5 ans, je dirais, je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais en fait d'avoir appris tellement, parce qu'avec les pièces vintage, je les retravaillais, donc j'avais l'habitude de les découdre, de changer les boutons, de regarder comment c'était fait. Enfin, donc en fait, je pense que j'ai fait une école, une auto-école de mode à ma façon, finalement, parce qu'il y a aussi ben, toute l'histoire de la mode quand on chine des pièces qui datent du début du 20e jusqu'aux années 80. Voilà, on voit passer finalement toutes les modes et tous les changements et toutes les libérations aussi pour les femmes dans les coupes. Donc en fait, c'était évident pour moi, je pense, d'imaginer des vêtements pour les femmes avec cette culture-là que j'avais et cette connaissance que j'avais et aussi cette passion du détail. C'est en fait ça que j'ai voulu après partager avec mes premières créations. Essayer de relier cette connaissance-là et cet intérêt-là de aussi vraiment sublimer une femme avec un vêtement, qu'elle se sente bien, et puis essayer de faire en sorte qu'il y ait moins de frustration, puisque la création permettait de proposer plus qu'une pièce.
Donc ça, c'est toute la genèse qui conduit au lancement de Cézanne, et on est en quelle année ?
Déjà, les créations, elles ont commencé dès 2009 ou dès 2010 avec les composantes. Et après, en 2013, c'est devenu Cézanne, donc c'était la suite. Et en fait, c'est le moment où il n'y a plus eu de vintage que c'est devenu Cézanne. Et c'était aussi un moment où j'étais un peu plus grande et que j'avais aussi besoin et envie d'affirmer la partie créative et la partie création qui était moins claire dans le principe des composantes. Et les gens, je pense, au bout d'un moment, savaient plus trop est-ce que c'était des pièces vintage, est-ce que c'était des créations. Donc en fait, le fait de changer de nom, ça permettait aussi de communiquer finalement ce que je voulais que ça soit et que ce soit clair. Et en fait, c'est drôle parce que c'était une décision qui fait peur. Quand on change, on a l'impression que, oh là là, est-ce que les gens ils vont comprendre? Est-ce qu'ils vont suivre? J'avais vraiment peur et en même temps besoin de le faire. Et en vrai, évidemment, c'était une super décision. Je ne regrette pas.
Effectivement, c'est une vraie décision et tu deviens créatrice de mode.
Je ne sais pas ce que je deviens, mais je deviens en fait ce que j'étais parce que naturellement, en fait, composer même avec une pièce vintage, la retravailler, la repenser, c'est une continuité. Donc oui, je dis souvent que mon métier, c'est de composer. Et donc même avec aujourd'hui les collections, mon rôle, c'est avant tout d'essayer de composer un vêtement et puis un ensemble après, puisqu'il y a l'image et il y a la façon dont on raconte cette image, notamment quand on est une marque en ligne. Et donc en fait, aujourd'hui, mon travail, c'est vraiment directrice de création quelque part, avec vraiment ces trois aspects qui sont indissociables, je trouve.
C'est quand même des décisions assez fortes que tu prends. Tu es encore très jeune, c'est-à-dire qu'au moment où tu lances les composantes, au moment où tu crées Cézanne, je crois que tu n'as pas encore 30 ans. Est-ce que tu demandes des avis à tes proches ou est-ce que tu n'écoutes que toi?
Non, bah après, j'ai mon mari qui clairement a un rôle hyper déterminant, je crois, parce qu'il m'a poussée, encouragée, donnée confiance, et avec cette même attitude, je pense, qu'ont eu mes parents, de ne pas avoir peur. Et donc, en fait, moi, où je pense que j'ai mis du temps entre ce passage, les composantes et Cézanne, et si j'ai réussi, je pense, à le faire, finalement, c'est parce que j'étais accompagnée de Thibaut. Pour lui, c'était tellement évident et c'était ce que j'étais, en fait, qu'il fallait aussi affirmer.
Et là, succès immédiat.
En fait, c'était la suite. Et les composantes étaient déjà bien lancées quelque part. Et Cézanne, ça a donné, je pense, une résonance un peu plus importante, puisqu'en fait, en affirmant une nouvelle marque, quelque part, ça a aussi permis de communiquer et donc d'être un peu plus visible.
Qui est-ce qui t'accompagne dans cette aventure-là? Est-ce que tu as une équipe de personnes qui sont avec toi depuis le début?
Oui, il y a ma famille déjà, parce qu'en fait, ma mère, elle m'a toujours aidée. Et encore aujourd'hui, elle travaille avec moi, donc pas au quotidien. Mais moi, je n'étais pas du tout structurée sur la partie compta, tout ce qui est administratif. Et c'était clairement pas mon truc. Et donc, elle m'a aidée sur toute cette partie-là, qui est en fait clé aussi, puisque le fait de se débarrasser, entre guillemets, de cette charge mentale, quand c'est pas du tout son truc, ça change tout. Et après, Thibaut. Et puis après, il y a Corentin qui nous a rejoints en 2013. Et après, il y a quelques personnes qui sont... Enfin, quasiment toutes les premières personnes qui sont arrivées dans l'entreprise, elles sont encore là aujourd'hui. Et on construit ensemble, au quotidien, la marque.
Est-ce que tu as des moments de peur, des moments où tu te dis tout ça ne va pas durer ou est-ce que tu avances de façon plutôt sereine?
J'avance complètement sereinement à titre personnel. En fait, ça a tellement grandi de façon naturelle. Il n'y avait pas de plan. Et en fait, quand on n'a pas de plan, ben, du coup, on n'a pas trop de peur. Après, il y a des grandes questions, forcément. Aujourd'hui, je suis responsable aussi de beaucoup de gens au quotidien, de leur vie professionnelle aussi, en tout cas, de tous les mois, à m'assurer que, évidemment, il y ait leur salaire sur leur compte et que ce soit une aventure qui dure dans le temps. Et donc ça implique de se remettre en question sans cesse, d'innover, de changer des choses, de savoir prendre les tournants qu'il faut. Et moi, en fait, j'adore ça. J'adore, je pense que c'est ce que je préfère. En fait, j'ai jamais le sentiment que ça y est, il y a quelque chose de confortable ou de bien ou d'assez satisfaisant. J'ai même pas le temps de me poser cette question, mais en plus, c'est pas ma nature d'être dans l'auto-satisfaction de « oh là là, Aussi, je pense que c'est lié, à, encore une fois, à ce que ma mère, la façon dont elle nous a élevés, de ne pas être fière de ce qu'on fait, mais plutôt de chercher à être heureux de ce qu'on est, en tout cas d'être aligné avec ce dont on a besoin, au fond, ça change beaucoup de choses. Donc, ma seule préoccupation, c'est de prendre les bonnes décisions pour que cette marque, qui est plus qu'une marque pour moi, parce que c'est aussi une histoire de vie et une histoire de où j'ai embarqué des gens, que ce soit mes coéquipiers, mais aussi des ateliers, des partenaires qui nous ont fait confiance et aussi aujourd'hui qui ont besoin de nous. Voilà, toujours avoir ça en tête pour prendre... toujours le chemin qu'il faut pour que ça dure et que ce soit pas juste un... Ce que j'aime pas, c'est quand j'entends quelquefois phénomène ou... En fait, je trouve que le côté phénomène, il a un côté éphémère et il a un côté qui est tellement pas en phase avec ce que moi je suis ou en tout cas ce que j'essaye de créer. Ce que j'essaye de créer tous les jours, c'est que ça dure et que ce soit une histoire qui a du sens dans le temps.
Est-ce que tu peux nous dire à l'heure actuelle, Cézanne, ce que c'est ? Parce qu'il y a, au début, il y a eu donc les collections, les ventes en ligne, puis l'appartement, la conciergerie.
Qu'est-ce que c'est aujourd'hui ? Je pense que c'est une marque vivante, puisque du coup, l'idée, c'est de ne pas l'enfermer, un peu comme moi. J'essaie de ne pas m'enfermer dans un cadre depuis que je suis petite. Je veux laisser la liberté à ce projet de ne pas l'être. En fait, c'est un terrain de jeu. C'est un terrain de jeu pour moi, d'abord, assez égoïstement. Je pense que j'ai essayé de me créer le terrain de jeu le plus adapté à ma personnalité. Et donc, en fait, il est très libre. Si il se trouve que c'est les vêtements qui ont composé en premier ce jeu, mais il y a autre chose. Moi, il y a toutes les choses qui m'intéressent et qui me passionnent, que ce soit un bon livre, un bon film, une belle image, un lieu de vie, une résidence d'artiste, ce que j'ai mis en place à titre personnel et en même temps forcément en lien avec aussi mon projet de création au quotidien chez Cézanne. C'est voilà, cet espace de vie et de jeu qui est juste libre et sans contrainte, si ce n'est celle de respecter les gens avec qui je joue. Et donc, les gens avec qui je joue, c'est les gens avec qui je travaille au quotidien et puis les clientes qui nous font en confiance. Ça, c'est ma priorité et je pense que je transige jamais là-dessus.
Tu ouvres aussi, tu as ouvert une boutique à New York, une à Londres, et puis il y a pas mal d'engagements solidaires, éthiques, ça tu peux nous en dire un petit mot ?
Comme on est une marque internet, on est un peu forcément disponible partout dans le monde, et naturellement il y avait beaucoup d'envie de notre clientèle, que ce soit en Angleterre ou aux États-Unis, de vivre aussi l'expérience dans un lieu de vie. Donc on a ouvert un appartement à New York et un appartement à Londres. À chaque fois, c'est parce qu'il y a un lieu coup de cœur qui s'est un peu imposé sur la route. C'est important aussi de juste le faire comme ça, en fait. Avoir le sentiment que ça vient naturellement. Et quand ça vient pas naturellement, en général, moi, ça ne marche pas. Enfin, en tout cas, ça m'interpelle pas. Donc, c'est les projets ne se font pas quand ils viennent pas naturellement. Et après, toute la partie engagée. Il y a 2 ans, on a lancé un programme solidaire qui s'appelle Demain. Qui est un programme en faveur de l'éducation et l'ouverture. Ce qui me tient particulièrement à cœur, c'est de pouvoir faire en sorte que des perspectives s'ouvrent pour tous les enfants et pas seulement ceux qui ont la chance d'être nés dans un endroit où naturellement on est plutôt privilégié. Et donc ça, c'était hyper important pour moi, je pense, d'amener cette dimension et ce sens-là dans ma vie quotidienne. Et ça n'a rien d'extraordinaire, si ce n'est de se dire, en fait, tout simplement que, en fait, on peut tous, à notre petite échelle, faire quelque chose. En l'occurrence, j'ai senti que je pouvais faire quelque chose. C'est qu'on a une marque où on a beaucoup de femmes qui nous suivent, qui sont sensibles, je pense, à la question de demain, de l'avenir en général, et aux questions de société. Et que, en fait, une fois par mois, donc il y a un appel solidaire, ça s'appelle l'appel du 21, et donc il y a une création solidaire nouvelle, et 10% des ventes du 21 qui sont reversées, et ça constitue un fonds aujourd'hui, à date, je pense qu'on est à peu près 1 800 000 euros, Et on travaille avec des associations. Donc, il y a la Voix de l'Enfant, qui est en fait une fédération d'associations. Et donc, on travaille avec eux aussi pour voir quels sont les projets qui ont le plus besoin de fonds et de moyens. Et donc, c'est génial parce qu'on a... C'est concret et il y a déjà un impact hyper positif et hyper dans la vie de beaucoup de jeunes. Et puis après, il y a une autre association qu'on a choisie et avec qui c'est pour le coup aussi génial, parce que ça s'appelle Sport dans la ville. C'est une, pour l'histoire de cette association, ce qui est incroyable, c'est qu'il y a déjà dans beaucoup de villes, beaucoup de projets qui sont... hyper intégré et qui change la vie de tellement de jeunes. Et voilà, enfin, je pense que c'est aussi notre rôle de, voilà, quand on est citoyen, un peu plus grand, qu'on devient grand et qu'on a peut-être la possibilité de bousculer certaines choses ou en tout cas de participer à un mouvement ou à un élan de solidarité et de progrès, d'être actif. Et voilà, donc ça, c'est la partie solidaire avec demain. Et puis la deuxième partie, c'est la partie durable. Et donc là, pareil, rien d'extraordinaire dans le sens où c'est évidemment pour toute marque un devoir de se prendre en main et de devenir la marque qu'on doit tous être. Donc hyper responsable sur évidemment les sourcings de matières premières, sur la façon dont on travaille avec les ateliers et puis évidemment sur la façon dont on travaille aussi dans notre quotidien avec tout ce qui est énergie et les questions de transport. Et donc ça, en fait, c'est un peu une espèce de grand élan depuis 2 ou 3 ans où en fait, toute l'entreprise est à fond. Et en fait, concrètement, je pense qu'on est en train de devenir un peu les premiers de la classe, j'exagère un peu, mais quand même sur pas mal de sujets avec beaucoup d'innovation, beaucoup de recherche sur les matières notamment. Donc on a déjà dépassé les objectifs qu'on s'était fixés en même pas 24 mois, vraiment plus vite, avec un impact qui est concret et qu'on peut mesurer et on va aller encore plus loin. Et en fait, je trouve que ce qui est extraordinaire dans cette prise en main de ces sujets-là, c'est la mobilisation de chaque personne dans l'entreprise sur ce sujet. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'on est tous concernés à titre personnel dans notre vie. Ça fait partie des questions qu'on se pose tous, qui nous soucient tous. Même si après, clairement, la mode et la création de vêtements, ben, peu importe, même quand on le fait de la façon la plus green possible, bah, ça reste de la création d'une matière ou d'un objet en plus dans notre société. Donc ça pose encore d'autres questions.
Ce sont des questions que tu te poses aussi au fond du fond du fond du fond sur la légitimité à ramener encore des produits supplémentaires dans le monde.
Oui, bien sûr, évidemment. Et la question, cette question, en fait, elle donne le vertige. Je pense qu'elle donne le vertige à beaucoup de gens dans notre société aujourd'hui. Enfin, on peut facilement se décourager, baisser les bras et se dire voilà, est-ce que ça a du sens? Est-ce que et en même temps, moi je pense que ce qui a du sens, c'est bon, clairement, on a besoin de s'habiller. Je pense pas que la société soit prête à vivre nu. Et même si moi j'adore le vintage, on est sur cette envie et cette réalité de proposer quand même des super beaux vêtements qui durent dans le temps. La question, c'est comment on arrive tous ensemble et collectivement à être plus raisonnable et raisonné. Et donc moi, ma réponse à ça par rapport à Cézanne, c'est si on peut devenir finalement une alternative à des marques plus fast fashion. Et que du coup, au lieu que les gens achètent 3, 4, 5 vêtements par mois, potentiellement dans des marques qui ont moins d'engagement et qui vont moins loin et qui sont pas forcément aussi respectueux de la partie éthique et la partie durable sur les matières premières, déjà, je pense qu'on a finalement une raison d'être, en fait. Et en même temps, il y a, je trouve, la dimension qu'on oublie dans toutes ces questions-là, c'est il y a une réalité humaine encore. C'est-à-dire que aujourd'hui, Cézanne, ça emploie à peu près 200 personnes entre nos adresses et nos bureaux, mais indirectement beaucoup plus entre les gens qui travaillent dans les ateliers, les freelances, les créatifs. En vrai, je pense que c'est plusieurs centaines de personnes Et ça aussi, c'est une responsabilité. Enfin, changer la mode ou changer le monde, d'accord, mais on ne peut pas aussi penser à comment on fait avec aussi toute cette responsabilité sociale où il y a aussi des gens. Et donc, il faut tout changer progressivement bien et faire mieux et peut-être renoncer à des travers qu'on peut tous avoir d'avoir envie de trop de choses, quoi. Et c'est ce que je disais, moi je suis dans cette remise en question telle que, évidemment, dès que je prends conscience de quelque chose qui est fondamental, il n'y a pas de compromis et ça va vite.
J'imagine que le fait d'avoir eu deux petites filles a aussi dû jouer dans cette sensibilité particulière que tu as par rapport à l'environnement.
Évidemment que je me sens concernée par qu'est-ce qui va arriver dans 50 ans et pour leur, si elles veulent, elles, construire une famille, est-ce que ça va être possible, en fait ? Ça paraît dingue, mais on se pose évidemment toute cette question. Et en même temps, en fait, ça génère beaucoup de peur. Le problème, c'est que la peur, elle peut être paralysante. Après, il y a aussi une partie, je pense que c'est hyper important d'être très humble par rapport à ce qu'on est dans l'univers. Et il y a une dimension de qu'est-ce que la Terre et qu'est-ce qu'on fait là et globalement que de toute façon on ne maîtrise pas et je trouve que ça permet de remettre les choses en perspective, de penser aux dinosaures, de penser à nous et de se dire on est aussi peu de choses dans cet univers et il faut moi ça me rassure de penser à ça.
J'ai lu dans une interview, alors c'est peut-être anecdotique et tu n'auras peut-être pas envie de réagir là-dessus, en 2016, mon corps dit stop. Tu travaillais trop ?
Oui, j'ai travaillé beaucoup. J'ai travaillé beaucoup pendant... Enfin, et je travaille encore beaucoup. J'ai eu aussi deux petites filles et j'ai senti mes limites physiques, pas mes limites mentales. C'est bien mon problème, c'est que mon cerveau, il est très actif et très vif. Et que voilà, ce terrain de jeu, il est tellement stimulant et épanouissant qu'en fait, il fait oublier ses limites physiques. Et donc, j'ai ressenti effectivement à Noël en 2016 qu'il fallait que je me calme, franchement. Et j'ai eu de la chance parce que je pense que j'ai senti tout ça avant que ça puisse être plus grave.
Si tu n'avais pas créé les composantes puis Cézanne, à ton avis, qu'est-ce que tu aurais fait ?
Honnêtement, j'ai aucune idée. Je pense que j'avais besoin de liberté et donc de toute façon, j'aurais cherché cette liberté d'une façon ou d'une autre et donc j'aurais cherché. J'aurais cherché comment être libre et comment me créer un terrain de jeu qui humainement me protège en fait et qui me permettent d'éviter des environnements ou des personnalités hostiles parce que ça m'intéresse pas. Je pense que j'ai créé un environnement que je trouve pour moi parce que je peux pas parler au nom des autres mais agréable, sain, stimulant, vivant, joyeux tous les jours, enfin c'est incroyable. Ce qu'il y a d'exceptionnel dans mon quotidien, c'est à quel point j'ai l'impression de rire et de sourire et de partager humainement une aventure incroyable avec les personnes qui m'entourent. Et ça, c'est quelque chose que j'ai découvert, puisqu'en fait, moi, j'étais seule pendant longtemps et indépendante aussi. Et je pense que je voulais absolument le rester, parce que j'avais peur que ça me prive de liberté de m'entourer et de m'accompagner de personnes, alors que j'adore les gens. Mais j'avais vraiment peur, je me disais, oh là là, enfin, quand on a quelqu'un dans son équipe, typiquement, au début en tout cas, et qu'on n'est que deux ou trois, il a besoin qu'on soit là. Et donc ça crée, pour moi, moi qui ai besoin de liberté sur les horaires, sur tout, sur l'organisation, sur le fait qu'il n'y ait pas de cadre, c'était un peu tétanisant. Et au final, quand on trouve les personnes qui finalement accompagnent cette nature autonome, c'est magique et vraiment ce qu'on voit pas de Cézanne mais qui est la plus grande je dirais force et la plus grande qualité et la magie, c'est les personnes qu'il y a derrière moi tous les jours je rentre à la maison et j'ai toujours l'occasion de dire, ou alors quand je vais dîner après avec des copines c'est ça, c'est magique.
Merci beaucoup Morgane.
Merci.
C'était un entretien mené par Laurence Velli, réalisé par Sidney Clazen et coproduit avec le magazine Grazia.
commentez, écrivez-nous, partagez, taguez vos amis, réagissez avec beaucoup de cœur, de pouces levés et d'étoiles quand on vous le propose. Les Déviations est un média à retrouver sur lesdéviations.fr, Facebook, Instagram, YouTube, iTunes et tous les autres. Les Déviations n'ont qu'une vocation, raconter des histoires de gens qui ont changé de vie. À très vite pour un prochain épisode.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.